c'est bon.
Merci beaucoup du conseil.
Avec Denis, Véro, Audrey.
17h16, le moment me semble drôlement bien choisi pour vous rappeler comment ça marche, le rock and ball. Dès que vous entendez une toune de Blink-182, vous vous inscrivez par texto? Non. Par téléphone? Non plus. Sur l'Instagram ou le Facebook? Bien essayé, mais non. Il y a une place où on s'inscrit, c'est le blvd.fm section concours. Le mois de juillet, San Francisco, un match de balle entre les Giants et les Blue Jays et un show de la tournée réunion de Blink-182. C'est ce qui vous attend peut-être. Tout le monde s'inscrit. On fait un finaliste par jour. On a encore quelques semaines à s'amuser. Déjà des milliers et des milliers de gens qui se sont inscrits. Continuez de vous amuser, de jour comme de nuit, de semaine comme de fin de semaine. Dès que vous entendez une toune de Blink, peut-être que les portes du Rock'n'Ball s'ouvrent à vous! BLVD.fm, merci à Variété 2020. On vous fournit l'avion, on vous fournit l'hôtel, on vous fournit de l'argent de poche. Ça garnit un été, comme qu'on dit. Mettons que vous autres, le festival d'été cette année, ouais, il me semble c'est pas mon genre, ben, tabarnouche. Dans ce temps-là, tu sors puis tu t'en vas à San Francisco, sur le bras. Pas pire pareil. Dans la circulation, Audrey?
Capitale, direction ouest, à la hauteur de Robert Bourassa, c'est encore super compliqué. Robert Bourassa, direction nord, entre Chartres et la capitale, il y a encore de bons ralentissements à prévoir. Si vous êtes sur Henri IV, direction nord, à la hauteur de la capitale, il y a encore un ralentissement inhabituel. L'entrée du pont Pierre-Laporte, direction sud, c'est encore super complexe. Là, si vous êtes sur Henri IV sud, la congestion commence à peu près à la hauteur de Quatre-Bourgeois. Charest, direction est, ça se passe entre Henri IV et Robert Bourassa. Pour le reste, c'est sur la rive sud. Ça se passe sur la 20 ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. S'il y a quoi que ce soit d'autre, ça passe par le 418-971-1021 par texto.
Véro, nouvelle de dernière heure qui brise le cœur. Un enfant très bas âge qui a été retrouvé mort.
Oui, un peu plus tôt. En fait, un peu plus tôt cet après-midi, les policiers qui ont confirmé le décès d'un enfant de 8 mois, ils ont reçu un appel au 911. Il était 2h moins quart environ pour un enfant en arrêt cardio-respiratoire. Les premiers policiers qui sont arrivés sur place ont pratiqué des manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Les paramédics ont pris la relève. On a fait un transport vers l'hôpital sous escorte. Question de gagner le plus de temps possible. Malheureusement, le décès de l'enfant a été constaté là-bas. C'est automatique, en bas de 6 ans, il y a une enquête qui doit être ouverte sur les événements, qu'est-ce qui a bien pu se passer, donc c'est à suivre.
On va se tourner du côté du Palais de justice, en studio avec nous, journaliste judiciaire au Soleil, Judith Demel. Salut Judith!
Allô!
On va reparler aujourd'hui, entre autres, d'une histoire que tu suis depuis, je dirais quoi, quelques semaines déjà. L'histoire qui met en triste vedette des policiers.
Oui, c'est le procès du policier Christian Lachance accusé d'agression sexuelle sur une collègue. En fait, ça serait passé dans un party d'équipe là, arrosé. La première semaine du procès est au mois de mars, puis ça, c'était toute la semaine pour la poursuite. Fait qu'on faisait la preuve, on entendait la plaignante. Puis là, ce mois-ci, lundi, ben on a commencé la défense. Donc là, aujourd'hui, on a entendu la version de Christian Lachance.
Il a témoigné.
Il a témoigné.
OK. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Parce que l'histoire qu'on nous avait racontée jusqu'à date, c'est que la policière était très saoule à ce party-là, qu'on l'avait reconduit dans une chambre presque pour la protéger, là, pour que la soirée se termine.
Le policier allait deux par deux pour être sûr d'être bien correct.
Absolument. Vous avez une bonne mémoire.
Bon, j'imagine que lui, de son côté, a amené peut-être une version qui diffère.
C'est un peu surréaliste parce que... Non seulement c'est des versions différentes, mais c'est des versions complètement opposées.
Parce qu'elle, ce qu'elle avait raconté, ce que tu nous avais dit, en fait, c'est qu'elle était tellement chaude qu'elle était pratiquement pas consciente, qu'elle a eu des flashbacks, exactement.
Elle s'est réveillée, il était nu sur lui, elle s'est sentie obligée de faire des affaires, elle a pas beaucoup de souvenirs, elle se souvient pas comment elle s'est ramassée là... C'était le néant, là. Puis elle gardait des mauvais souvenirs de ça.
Elle savait même pas ce qu'il faisait au party parce qu'elle disait qu'il y avait eu une plainte contre lui.
Exact. Puis c'était pas son ami nécessairement dans la soirée. Donc c'était vraiment... On parlait d'une plaignante très vulnérable que ses amis ont aidé, que le lendemain, elle savait trop pas ce qui s'était passé. Elle avait vérifié auprès des gens du party. Puis là, monsieur, lui, Christian Lachance, nous a raconté une version tout autre. Lui, il dit qu'elle lui a fait des avances toute la soirée, que c'était très précis avec des mots qui voulait vraiment dire
qu'elle voulait coucher avec.
Là. Puis que lui, quand il est allé la coucher à minuit, là, je vous avais raconté qu'on est allé la placer dans une chambre d'amis pour éviter tout quiproquo, puis des situations qu'on ne voulait pas. Puis lui dit que vers minuit, quand il a aidé à aller la coucher, elle lui avait déjà fait des avances, mais là, qu'il avait remarqué qu'elle était saoule, il trouvait ça bizarre, il est monté en haut, il a continué le party. Puis vers 4 heures du matin, quand il a voulu aller se coucher, il pensait qu'elle était partie. Donc, il est descendu en bas pour prendre la chambre, pour se coucher un peu avant de reprendre le volant. Puis elle est encore là, finalement. Puis à ce moment-là, il dit lui avoir dit « Es-tu correct? Je savais pas que tu étais là, je m'excuse. » Puis à ce moment-là, elle l'aurait invité au lit.
Je veux juste bien comprendre. Il est arrivé dans cette chambre-là par hasard?
Il voulait aller se coucher.
Il
n'y
a pas d'autres chambres?
Il y avait la chambre principale du gars qui appartient à la maison, puis il y avait la chambre d'amis qui était au sous-sol. Okay. Puis elle était couchée dans la chambre d'amis au sous-sol pour qu'elle dégrise.
Lui constate son état d'ébriété avancé vers 11h minuit. À 4h du matin, il pensait plus à ça?
À 4h du matin, il a dit que la situation avait évolué, que ses propos étaient très clairs, que c'était quelqu'un qui avait toute sa tête et qu'il n'avait aucun doute. Il dit aussi avoir validé son consentement tout au long de la relation sexuelle qui a duré tout près de 2 heures. On nous dit, là, beaucoup de positions, beaucoup... Ils se sont parlé, ils ont pris des pauses, ils ont passé une très belle soirée. Lui, il dit qu'ils avaient même prévu se revoir.
2 heures?
Oui.
C'est épouvantable.
Donc, vous voyez, on n'est même pas dans... elle me fait ça, donc je pensais qu'elle consentait. Là, lui, il dit, j'ai demandé mot pour mot, savoir si elle voulait. Elle a dit oui. Tu sais, on est...
C'est
on
deux nuits différentes. Jour et la nuit. C'est même pas le même événement,
c'est
on
même
dirait,
pas quelqu'un qui a mal interprété un signal. Là. C'est vraiment... D'un côté, on dit qu'il y a eu un signal clair et net dans le sens des mots là, très précis, puis de l'autre, on dit qu'il n'y a rien eu.
Mais là, dans ce cas-ci, il n'y a pas juste leur témoignage à l'un et l'autre. Il y a des gens qui les ont observés au courant de la soirée parce que ça, dans des histoires...
Dans une communauté, c'est très serré. Ouais, tu sais, t'as les militaires, t'as les policiers, ouais, effectivement.
Mais là, est-ce qu'il y a des gangs qui se sont faits là-dedans, entre guillemets, dans les différents témoignages? Parce que c'est pas juste le témoignage de la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il y a des gens qui ont assisté à la soirée.
Oui,
là.
Puis c'est des suppositions, parce que quand tu témoignes pour du côté de la poursuite, disons-le comme ça, c'est parce que la poursuite t'a assigné. C'est pas parce que t'as choisi d'aller témoigner pour la poursuite et l'autre a choisi de témoigner pour la défense. C'est un cas où, en plus, c'est des policiers, là, ils savent comment ça marche, puis ils ont pas vraiment le choix. Là, quand ils sont appelés au tribunal, ils doivent y aller, là, ils peuvent pas refuser. Donc, mettons, il y a une policière, justement, qui était là au party, qui a témoigné hier en premier, puis elle devait... au départ, témoigner du côté de la poursuite. Finalement, la poursuite a décidé qu'elle n'en avait pas besoin, qu'il y avait assez de témoins. Mais finalement, la défense a décidé de l'appeler pareil. Tu sais, c'est difficile de voir s'il y avait des gangs, mais c'est sûr que dans les témoignages, tu peux un peu voir leur position
Mais est-ce qu'il y a des témoignages qui corroborent clairement la version des faits de l'accusé?
Ben, non, parce qu'il n'y avait personne dans la chambre. Il n'y a personne qui les a vus avoir des relations sexuelles. Vraiment... Fait que tout ce qu'on peut corroborer,
c'est la soirée avant.
Il m'a dit, puis là, justement, ce que la policière qui a témoigné hier a corroboré, c'est qu'après minuit, quand Christian Lachance est remonté au party après l'avoir couché, il a dit à la policière, elle m'a dit 3 fois qu'elle voulait qu'on baise. Puis ça, elle confirme qu'il lui a bien dit ça. Donc là, il y a une corroboration ici, mais qu'est-ce qu'elle vaut? J'en sais rien. Là, c'est pas moi qui juge.
Mais Judith, il n'y a pas rien de circonstanciel. Puis je vais prendre un exemple loufoque. Mettons, il n'y a pas un policier qui a dit « Elle est sortie de la chambre à 2h, on a calé des cafés jusqu'à 4h du matin, puis quand elle est repartie, elle était bien lucide. » Ça, c'est pas arrivé. Là.
Non. Okay. Non, je confirme. Puis c'est pour ça que tout va jouer essentiellement sur la crédibilité des témoins. Puis si on croit... la plaignante où on croit l'accusé, puis les juges sont bien plus outillés que moi pour déceler où est-ce
les
qu'on...
nuances.
Oui, exact. Tu sais, mettons que Christian Lachance se souvient d'absolument tout par rapport à la victime, la plaignante, mais qu'on lui demande de quelque chose par rapport à quelqu'un qui était là, puis que ça, il dit « Ah non, cette partie-là, non ». Fait que là, il se souvient de mettons, entre 9 et 10 heures parce qu'il était avec la plaignante. Entre 10 et 11 heures, il se souvient plus de rien. Mais entre 11 puis minuit, là, il a retrouvé
la mémoire, puis là, il sait tout ce qui s'est passé.
Avec la crédibilité.
Il y a des patterns comme ça qu'on est capable d'analyser pour voir qui dit vrai. Là. Ça, c'est pas,
puis tu sais,
qui décide. Là.
La fraternité, bon, on sait que ça a l'air assez serré, les policiers. Là. Ça a l'air assez... Oui. Est-ce qu'on sent encore une espèce de support pour la plaignante? Ou...
Mais la plaignante n'est pas là. La seule journée qu'elle est venue au palais de justice, c'est pour témoigner. Mm-hmm. Ensuite, elle n'a pas assisté là, au reste des audiences. Puis, évidemment, Christian Lachance est accompagné de quelqu'un de la fraternité là, tout au long du procès, là, de la première minute jusqu'à la dernière.
Est-ce que l'accusé a été contre-interrogé?
Pas encore. Ça va se faire demain.
OK. Donc, s'il y a des points, si on veut mettre en doute la véracité...
Probablement,
hein, ouais.
C'est le genre de procès où la cuisine est la plus... très, très serré. Là. Mm. Des fois, on a l'impression qu'il passe une demi-heure sur quelque chose de complètement banal, mais qui fait la différence. Puis c'est pour ça que c'est long, puis ça a l'air anodin. Puis tu te dis, hey, on est-tu vraiment en train de s'ostiner sur le shooter, il l'a pris à 9h09 ou à 9h20? Là. Mais ça fait toute la différence dans peut-être une ligne du temps que chaque partie s'est dessinée pour savoir qui dit vrai, tu sais.
T'as fait une série de textes à la fois fascinants et malaisants sur la fraternité des policiers, qui est le syndicat des policiers, et qui, dans ce genre de dossier-là, défraie des deux bords, c'est bien ça?
Des frais d'un seul côté?
D'un seul côté?
Ben parce que la seule personne qui a des frais de judiciaire à payer, c'est l'accusé.
OK. Donc, on utilise les sommes du syndicat pour payer la défense de l'accusé.
C'est un fonds spécial que la fraternité s'est voté là, il y a quelques années, donc pour épauler là, tous les membres policiers qui auraient des accusations criminelles.
Même si ce n'est pas dans le Code du travail?
Même si ce n'est pas dans le Code du travail. C'est un fonds spécial.
Tout le monde cotise pour ça?
Tout le monde cotise.
Incluant la victime?
Incluant la plaignante.
Donc, dans le fond, techniquement, c'est ce que j'ai compris en lisant tes textes, c'est que... la personne qui dénonce son agresseur paye pour sa défense.
Elle paye pour la défense de son agresseur, oui. Puis c'est quelque chose que plusieurs membres de la police de Québec ont dénoncé ou nous ont fait savoir qu'ils avaient un malaise très profond avec cette situation-là, parce que là, on parle pas d'accusation contre une personne du public. Là. Mm-hmm. C'est contre... une collègue, puis elle, c'est elle qui est victime dans cette histoire-là. Puis, bref, il n'y a pas d'analyse de dossier. Ouais. On défend tout le monde qui est accusé d'accusation criminelle, peu importe c'est quoi, peu importe contre qui.
T'as-tu eu des réactions supplémentaires depuis la publication de ces textes-là? Parce que, oui, tu l'avais décrit, qu'il y avait un malaise, ouais. Puis on le comprend bien. Là.
Ça a fait jaser pas mal, puis, tu sais, justement, les radios en ont parlé beaucoup, mm-hmm. Puis fait que c'est là que j'ai entendu les échos, j'ai reçu énormément de courriels. Le malaise est ressenti par plusieurs, mais on m'a aussi dit que c'est dur de comprendre la position des policiers quand t'es pas policier, t'sais.
Alors que c'est pas tous les corps de police qui fonctionnent de la même manière.
Mettons la SQ ne fonctionne pas du tout comme ça. Puis j'ai eu des témoignages des policiers qui sont au sein de la SQ qui disent que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'essaie de respecter la décision de la fraternité parce qu'elle est expliquée, mm-hmm. Puis elle a des raisons pour mettre pour que ce fonds-là existe. Mais de l'extérieur, je pense que c'est plus mal vu que bien vu.
C'est légitimement questionnable, je pense.
Voilà. Puis tu sais, on peut se faire l'opinion qu'on veut, mais est-ce qu'au final, on trouve ça d'accord qu'une plaignante, finalement, débourse des sous pour payer? En fait, est-ce qu'on trouve ça correct que des policiers... défendre des présumés agresseurs sexuels qui sont dans leur rang? T'sais, c'est un peu ça, là, la question. Quand on parle de voies de fait, de bataille, quand on parle de choses un peu externes, on peut se demander c'est quoi les nuances, c'est quoi les faits, mais quand on parle de gestes sur la personne, puis ça doit être des policiers qui montrent l'exemple et tout, ça peut devenir...
une question de perception, là, ouais.
Question de perception. Puis tout le monde peut faire son idée, là, mais...
Moi, j'ai un gros malaise, mais je comprends rien, je suis pas police.
Non, c'est sûr, tu peux la dire, ton opinion, fait qu'on peut l'entendre, vas-y.
Ça n'a pas de maudit bon sens, je veux dire, c'est un système indéfendable dans des circonstances comme celle-là. Puis je pense que n'importe qui a un peu d'humanité dans le fond du corps est capable de prendre conscience que quelqu'un qui, dans une communauté comme celle-là, dénonce un abus sexuel d'un confrère ou même d'un supérieur ou d'une personne en position d'autorité n'a pas à financer sa défense. Tu sais, il n'y a rien là-dedans la route.
Je vais te répéter quelque chose qu'un policier de la Sûreté du Québec m'a dit quand j'ai jasé ça avec lui. Il m'a dit, je pense pas que nous, à la SQ, les membres, on serait à l'aise de payer pour un policier qui est accusé de capacité affaiblie. Mmh. Fait qu'encore moins d'agression sexuelle.
Judith, y a-tu des trucs intéressants qui s'en viennent au palais de justice cette semaine?
Oui, jeudi. Jeudi, il y a Marie-Claude Fortin qui va régler son dossier. Elle, c'est une éducatrice d'un centre jeunesse du CIUSSS qui est accusée d'attouchement sexuel contre un ado de 17 ans qu'elle a rencontré au centre Le Gouvernail, le centre de réadaptation. Donc, elle l'avait sous son aile, là, elle était en situation d'autorité. Donc, ça, c'est une...
Elle va plaider coupable, dans le fond?
Oui, c'est supposé. Puis, on a aussi un meurtre qui se règle. C'est un meurtre de 2022 qui s'était passé à Beauport. C'était, rappelle-moi les noms.
Christian Ouellet.
J'en ai pas mal.
Christian Ouellet est accusé du meurtre de François Boivin.
Exact. Donc, Christian Ouellet avait poignardé à mort, supposé poignarder à mort François Boivin dans un stationnement d'un immeuble à logement de Beauport. Puis, ça va se régler, là aussi, il est censé plaider coupable.
C'est pas une bonne période à Québec quand tu es obligé de démêler dossiers de meurtre. Il y a des années qui ont été plus tranquilles que ça. Là.
C'est vraiment un gros printemps. Excusez-moi si je me tombe dans les noms d'accusés.
On peut comprendre.
Il n'y a pas de problème. Hey, Judith, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous pouvez lire Judith Demeul, évidemment, sur le site du Soleil, journaliste judiciaire, qui vient nous jaser de temps à autre de tout ce qui se passe du côté du Palais de justice. Il est 17h33. On fait une courte pause, on revient. 102.1.